Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs, bonjour, chers amis. En ce dimanche du 22 mars, où nous vivons une situation exceptionnelle, une situation que nous n'avons pas l'habitude de vivre, à travers ce confinement décrété par nos gouvernants, et à juste titre, pour l'intérêt général, pour l'intérêt sanitaire général, pour se préserver et préserver les autres. Oui, c'est une situation difficile où je suis le premier à être touché par ce confinement et surtout, pour la première fois, je me retrouve dans un bureau en train d'enregistrer un message qui ne pourra jamais remplacer cette communion fraternelle où nous nous voyons, nous nous côtoyons, mais ce n'est que partie remise. Viendra le jour où nous nous retrouverons à nouveau pour vivre de manière pratique cette communion fraternelle. Cette communion qui est d'abord spirituelle en celui qui nous a unis en lui, par l'œuvre qu'il a accomplie à notre place, une œuvre centrale dans le plan divin, l'œuvre de la croix. Avant de commencer et de partager avec vous un message, ce matin, nous allons commencer d'abord par la prière. Père éternel, à toi la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Tu es souverain, tu prends contrôle de toutes choses. Rien ne t'échappe. Tout vient de toi, par toi et pour toi. Nous remettons entre tes mains cette situation que nous vivons à cause de ce virus et qui nous oblige, pour l'intérêt général, à vivre dans un confinement. Je te prie de nous aider à faire un retour sur nous-mêmes, que cette situation nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, sur notre existence, sur le pourquoi de notre existence. Seigneur, que tu puisses parler dans les cœurs, que tu puisses toucher les cœurs et que tu puisses aussi consolider, fortifier, régénérer ton Église, parce que tu es l'Église. Je remets entre tes mains tous les frères, toutes les sœurs qui souffrent dans leur chair. Je te prie de les accompagner là où ils sont, là où elles sont. Je te prie de leur apporter ce soutien divin, que tu puisses être leur consolateur. Je remets entre tes mains ce partage de ce matin dans des situations certes exceptionnelles, inattendues, mais je te prie qu'à travers cette modeste, à travers ce modeste partage, tu puisses nous faire vivre cette communion spirituelle, parce qu'elle est d'abord spirituelle, en celui qui est assis à ta droite. Merci pour toute chose, parce qu'à travers toute chose, tu nous enseignes et tu veux nous apprendre. À toi la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Chers frères, chères sœurs de l'église du Creusot, chacun est dans sa demeure. Chacun est confiné. Il y en a qui sont confinés en famille, mais d'autres sont seuls. Alors d'abord, il faut qu'on pense à ceux qui sont dans la solitude, que cette situation nous rappelle aussi que même en dehors de ce confinement, il y en a qui continuent à vivre seuls. Nous devons penser à eux. Nous devons penser à elles. Et que cette situation que nous vivons nous apprenne beaucoup sur nous-mêmes. Comme vous le remarquez, ce confinement, on a, en quelque sorte, nous prive de notre liberté, de nos libertés, pour le bien commun. Mais ça doit nous rappeler aussi cet esclavage dans lequel nous vivons, l'esclavage de notre chair, qui nous impose un confinement plus terrible que celui que nous vivons actuellement. Et comme la situation que nous vivons actuellement, nous nous attendons maintenant à une solution qui pourra venir de nos médecins, de nos infirmières, à qui il faut rendre un hommage. Vous voyez, nous attendons à une libération qui vient de l'extérieur. Une libération, nous attendons d'entendre, d'écouter des bonnes nouvelles. Nous regardons la télé pour attendre qu'est-ce qu'on nous annonce en attendant une bonne nouvelle pour nous dire, ça y est, nous avons trouvé le remède. Nous pouvons être libérés pour sortir de ce confinement. C'est une image, c'est un enseignement aussi de ce que nous vivons dans notre chair, dans notre nature. Sans nous rendre compte, on croit vivre dans une liberté. Alors c'est une liberté, c'est une prison déguisée en liberté. Nous sommes dépendants de notre nature et de ses convoitises. Mais quelqu'un nous a libérés. C'est l'œuvre de la croix qui nous montre encore que nous pouvons vivre cette libération, sortir de ce confinement, je dirais, spirituel, ce confinement quelque part qui nous emprisonne dans notre nature par celui qui a tout accompli à la croix. Oui, j'ai dit confinement spirituel, mais j'aurais dû dire confinement charnel. C'est plutôt le confinement charnel dans lequel vit notre nature. Et nous sommes appelés à vivre cette libération. Mais cette libération est disponible par celui qui a tout accompli, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, là où vous êtes, je vous prie et je vous incite à prier pour nos frères et sœurs chrétiens qui vivent en Alsace. Oui, qui vivent en Alsace, c'est les frères et sœurs qui vivent dans l'église de Mulhouse, qui est confrontée actuellement à des difficultés. Oui, ils ont perdu des frères, des sœurs, touchés par ce virus. Plusieurs sont touchés dans leur chair. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jugement. Il ne faut pas qu'on tombe dans le jugement, mais nous devons prier pour eux. Oui, nous devons prier pour nos frères et sœurs d'Alsace. Prier pour les pasteurs, prier pour les membres, prier pour les frères et sœurs de l'Église qui sont touchés ou qui ont perdu un membre de leur famille. Évitons les jugements hâtifs et simplistes, mais comme à chaque épreuve, prions Dieu qu'il nous éclaire, qu'il nous parle à travers ces épreuves, cette épreuve. Que cette situation, comme d'autres, nous pousse à nous interroger. Parce que tout ce que nous vivons, c'est un message visible d'une réalité invisible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à travers nous vivants? Et cette question, nous ne devons pas la poser seulement à travers la situation que nous vivons actuellement, mais tous les jours. Car le Seigneur parle. Que cette situation nous permet d'effectuer un retour sur soi, une remise en question permanente dans l'humilité et la simplicité et la repentance. Cette situation doit nous interroger sur nous-mêmes, sur la nature humaine, sur notre vie en société. Chers frères et sœurs, ne tombons pas dans le complotisme, ne tombons pas dans le jugement hâtif. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est dans la difficulté que l'amour est éprouvé. N'oublions pas que l'objectif principal de l'Église, avec un E majuscule, l'Église en tant que corps, en tant que Christ, c'est ce que la Bible appelle la vocation céleste. Notre objectif en tant que chrétien, c'est que notre regard soit fixé sur Christ, et surtout sur l'aboutissement de toute chose, cette union finale entre Christ et son Église, avec un E majuscule. C'est la vocation céleste. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 12. à 14, je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'objectif même de notre existence. Et dans de telles situations, la nature humaine cherchera à profiter de l'occasion pour porter un jugement sur les uns et les autres. Porter un jugement, c'est déjà se mettre au niveau de notre Créateur, le seul qui peut juger. Aimons-nous les uns les autres. L'amour doit être par-dessus toute chose. Seigneur, viens en aide à nos frères et à nos sœurs alsaciens, et plus particulièrement à l'église de Mulhouse. Je te prie d'imposer ta main de grâce, et d'amour sur chacun d'eux et chacun d'elles. Oui, en tant que chrétien, ça nous montre à quel point l'église avec un petit e minuscule, l'église en tant que bâtiment, c'est fragile. Celles et ceux qui réduisent l'église à un bâtiment, nous avons aujourd'hui la preuve que ce n'est pas ce qui est important aux yeux de Dieu. L'église, c'est une communion d'abord spirituelle en celui qui a rendu l'existence de l'église possible. C'est une communion invisible, spirituelle, qui se vit dans la foi et dans la grâce, et par la grâce de Dieu, quand Dieu le permet, elle s'exprime à travers des églises avec un minuscule bâtiment, rassemblement dans des lieux physiques. Il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Et nous sommes en train d'exprimer la notion d'église avec un E majuscule en tant que communauté spirituelle unie en Christ. Oui, en tant qu'Église, corps de Christ, nous sommes appelés à cette vocation céleste. Et j'ai envie de partager avec vous une deuxième lecture dans 1 Pierre, chapitre 1. Je vais lire avec vous versets 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, des paroles précieuses qui doivent nous dynamiser, nous redynamiser, nous remettre en mouvement. C'est pour cela que notre cœur a été ouvert par le Seigneur à lui. Notre cœur a accueilli l'Esprit Saint. Notre cœur a accueilli notre Seigneur et il nous met en mouvement vers cette vocation céleste, en lui, par lui et pour lui. Après ces paroles, je dirais, d'encouragement, un encouragement mutuel, que nous puissions avancer ensemble en tant que d'Église, j'ai envie, le désir de partager avec vous un message qui ne vient pas de moi. À présent, je vais vous lire un message qui vient d'un frère du 19e siècle. Sa frère, c'est Charles Spurgeon. Oui, Charles Spurgeon, qui est un pasteur qui a vécu au 19e siècle, qu'on surnommait le prince des prédicateurs. Charles Spurgeon, qui est né en 1834 au Royaume-Uni, d'ailleurs, et qui est décédé en 1892, était un homme de Dieu, de parole, de pratique et de terrain. Oui, il était, le Seigneur l'a mis dans une communauté chrétienne où il apportait la parole, mais il y avait les actes qui accompagnaient les paroles. Durant son ministère, ce frère a favorisé la construction d'une école, d'une maison de retraite, d'un orphelinat. Vous voyez, c'était un frère qui était dans l'action. C'est un frère aussi qui a vécu son ministère dans la souffrance. Quand je dis souffrance, une souffrance morale par le rejet, par les critiques qu'il a subies, quand il dénonçait des situations à ses yeux n'étaient pas conformes au désir du cœur de Dieu. Spurgeon durant son ministère, et Dieu l'a permis. C'est cela, la sagesse divine. Charles Spurgeon souffrait de ce qu'on appelle la goutte. C'est une maladie monoarthrite aiguë. Voilà le nom de la. Et cette maladie l'a accompagné toute sa vie. Il a souffert de d'autres maladies. Il a souffert aussi de la souffrance et de la maladie de son épouse. Et quand on l'interrogeait, ce frère du 19e siècle disait que le Seigneur a permis tout cela pour me maintenir dans une humilité permanente, pour que je n'attrape pas la grosse tête, mais que je sois totalement dépendant de lui par ces situations difficiles qu'il a permis, que le Seigneur a permis dans ma vie. Je peux vivre, accomplir ce que le Seigneur me demande dans l'humilité et dans la dépendance totale. Quelle foi merveilleuse! Quelle foi merveilleuse qui nous apprend que nous avons besoin de ce brisement. Nous avons besoin de porter notre croix en sorte de dépendre de plus en plus de notre Créateur. C'est ainsi qu'il peut œuvrer à travers nous. Oui, c'est à travers ce frère qui a vécu au 19e siècle, j'ai envie de partager avec vous un message qui m'a touché. D'abord, le premier, et le titre de ce message est le suivant. Le type de réveil dont nous avons besoin. Je vais vous le lire tel quel, tel qu'il est. Et j'en suis convaincu. S'il a parlé aux frères et sœurs et au monde du 19e siècle, il peut le parler aujourd'hui aussi. Ce frère voyageait dans le monde. Il apportait la bonne nouvelle. Il est même venu jusqu'en France, à Paris, au 19e siècle. Oui, je vous encourage à rechercher des écrits de ce frère et vous verrez que Dieu parle. Il n'y a pas de notion de temps avec le Seigneur. Il n'y a pas de notion d'espace-temps. Et nous sommes en train de l'expérimenter actuellement. Le type de réveil dont nous avons besoin, d'après par Charles Spurgeon. Il est bon que nous nous approchions de Dieu dans la prière. Nos cœurs sont chagrinés de voir tant d'églises accorder si peu d'attention à la prière unie. Comment pouvons-nous nous attendre à recevoir une bénédiction si nous sommes trop oisifs pour la demander? Comment pouvons-nous rechercher une Pentecôte si nous ne rencontrons jamais en un seul lieu pour nous attendre au Seigneur? Frères, nous ne verrons jamais de grands changements dans nos églises, dans la direction du meilleur, à moins que les réunions de prière occupent une place plus élevée dans l'estime des chrétiens. Mais une fois que nous nous sommes assemblés, comment devrions-nous prier? Ne dégénérons pas en formalité. Autrement, nous risquerions de mourir alors que nous pensons être vivants. Ne naviguons pas dans l'incrédulité. Autrement, nous prierons en vain. Que nous puissions avoir une grande foi avec laquelle nous pourrions offrir de grandes prières. Nous avons mélangé la louange avec la prière comme une délicieuse composition d'épices destinée à être présentée sur l'autel d'encens par Christ notre Seigneur. Ne se peut-il pas qu'à ce moment-là, nous offrions en quelque sorte une pétition spéciale de façon éloignée? À mon avis, je suggère que nous prions pour un vrai et véritable réveil de la religion dans le monde entier. Je me réjouis de tout signe de vie, même s'il doit être provisoire et fébrile, et je suis lent à juger un quelconque mouvement bien intentionné. Mais je crains sérieusement que de nombreux soi-disant réveils sur le long terme n'apportent plus de mal que de bien. Une espèce de distraction religieuse fascine de nombreuses personnes et leur donne du dégoût pour la sobre affaire de la véritable piété. Mais si je suis enclin à déposer avec fracas les contrefaçons sur le comptoir, je ne sous-estime pas par conséquent l'or véritable. Loin de là. Cela devrait être notre désir, au-delà de toute mesure, que le Seigneur envoie un réveil réel et durable de vie spirituelle. Nous avons besoin d'une œuvre du Saint-Esprit de type surnaturel, qui remplisse de puissance la prédication de la parole, qui insuffle à tous les croyants une énergie divine et qui affecte solennellement les cœurs des insouciants afin qu'ils se tournent vers Dieu et vivent. Nous observerions le feu descendant du ciel en réponse aux prières ferventes et efficaces des justes. Ne pouvons-nous pas implorer le Seigneur, notre Dieu, de découvrir son saint bras aux yeux de tous les peuples dans ce jour de déclin et de vanité? Nous voulons un réveil de l'ancienne doctrine. Je ne connais pas une seule doctrine qui, en ce jour, ne soit pas sapée studieusement par ceux qui devraient être ses défenseurs. Il n'existe pas une seule vérité précieuse à l'âme qui ne soit maintenant niée par ceux dont la profession devrait être de la proclamer. En ce qui me concerne, il est clair que nous avons besoin d'un réveil de la prédication de l'ancien évangile comme celui de Whitefield et Wesley. Les Écritures doivent devenir le fondement infaillible de tout enseignement. La ruine, la rédemption et la régénération de l'humanité doivent être mises en avant dans des termes qui ne prêtent à aucune confusion. De façon urgente, nous avons besoin d'un réveil de la piété personnelle. C'est là en effet le secret de la prospérité de l'Église. Lorsque les individus s'écartent de leur dévouement, l'Église est balancée à gauche et à droite. Quand la foi personnelle est ferme, l'Église demeure vraie envers son Seigneur. C'est de ceux qui sont véritablement pieux et spirituels que dépend l'avenir de la religion dans les mains de Dieu. Puissions-nous avoir davantage de saints véritables, S-I-N-T-S, saints véritables, remplis du Saint-Esprit et ravivés par lui, consacrés au Seigneur et sanctifiés par sa vérité. Frères, nous devons chacun vivre pieusement si nous voulons que l'Église soit vivante. Nous devons vivre selon Dieu si nous voulons nous attendre à voir le plaisir du Seigneur prospérer dans nos mains. Les hommes sanctifiés sont le sel de la société et les sauveurs de la race. Nous désirons ardemment un réveil de la religion dans les foyers. La famille chrétienne était le rempart de la piété à l'époque des puritains. Mais dans ces jours mauvais, des centaines de familles de soi-disant chrétiens n'ont pas de culte familial, ni d'exercice de la retenue sur les fils qui grandissent, ni non plus d'instruction ou de discipline saine. Comment pouvons-nous nous attendre à voir le royaume de notre Seigneur avancer lorsque ses propres disciples n'enseignent pas l'évangile à leurs propres enfants? Ô hommes et femmes chrétiens, soyez profonds dans ce que vous faites et connaissez et enseignez Que vos familles soient éduquées dans la crainte de Dieu. Et soyez vous-même saints pour le Seigneur. C'est ainsi que vous pourrez tenir debout comme un rocher au milieu des vagues envahissantes de l'erreur et de l'impiété qui se déchaînent furieusement autour de nous. Nous désirons aussi un réveil de consécration forte et vigoureuse. J'ai plaidé la cause de la véritable piété. Aujourd'hui, je plaide pour une piété parmi les plus élevées de ce genre. Nous avons besoin de saints, S-A-I-N-T-S. Nous avons besoin de cœurs gracieux, entraînés à une forme élevée de vie spirituelle par une abondante conversation avec Dieu dans la solitude. Les saints acquièrent leur noblesse à partir de leur recours constant au lieu où le Seigneur les rencontre. Dans ce lieu-là, ils acquièrent aussi cette puissance dans la prière dont nous avons si grandement besoin. Oh, que nous puissions avoir davantage d'hommes comme John Knox, dont les prières étaient plus terribles pour la reine Mary que 10 000 hommes. Oh, que nous puissions avoir davantage d'Élie, par la foi duquel les fenêtres du ciel pourront être ouvertes ou fermées. Cette puissance ne vient pas par un effort soudain. Elle est le résultat d'une vie consacrée au Dieu d'Israël. Si nos vies sont entièrement publiques, ce seront des vies mousseuses, vaporeuses et inefficaces. Mais si nous maintenons une forte communion avec Dieu dans le secret, nous serons forts réellement. Celui qui est un prince avec Dieu aura un rang élevé parmi les hommes après la véritable mesure de noblesse. Prenez garde à ne pas être des apprentis. Efforcez-vous de vous appuyer sur vos propres murs de la foi réelle, de la foi réelle dans le Seigneur Jésus. Qu'aucun de nous ne tombe dans une dépendance de l'homme qui est médiocre et frappé par la pauvreté. Nous voulons parmi nous des croyants semblables à ces solides et substantiels châteaux familiaux qui demeurent de génération en génération comme des points de repère dans le pays. Pas des constructions en placoplâtre, mais des édifices solidement construits, résistant à tous les climats et défiant le temps lui-même. Étant donné une armée d'hommes fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, la gloire de la grâce de Dieu sera clairement manifestée, non seulement en eux, mais en ceux qui sont autour d'eux. Que le Seigneur nous envoie un réveil de force consacrée et d'énergie céleste. Prêchez par vos mains, si vous ne pouvez prêcher par vos bouches. Lorsque nos membres d'Église démontreront les fruits d'une véritable piété, nous aurons bientôt des gens qui viendront chercher l'arbre qui porte une telle récolte. Oh, le rassemblement des saints est la première partie de la Pentecôte, et la rentrée des pécheurs en est la seconde. Elle commença avec, j'ouvre les guillemets, seulement une réunion de prière. Je ferme les guillemets. Mais elle se terminera avec un grand baptême de milliers de convertis. Oh, que les prières des croyants agissent comme des pierres pointues à l'égard des pécheurs. Que chaque rassemblement d'hommes fidèles soit un appât qui attire les autres vers Jésus. Que beaucoup d'âmes volent vers lui parce qu'elles voient d'autres se précipitant dans cette même direction. Seigneur, nous nous détournons de ces pauvres atermoiements, de ces pauvres atermoyeurs stupides pour nous tourner vers toi. Et nous plaidons en leur faveur avec ton esprit pleinement sage et gracieux. Seigneur, convertis-les et ils seront convertis. Par leur conversion, priez qu'un véritable réveil commence ce soir, qu'ils se répandent dans tous nos foyers et qu'ensuite, il parcourt église après église jusqu'à ce que toute la chrétienté soit embrasée par un feu descendant du ciel. Point. Voilà, chers frères et sœurs, le message du 19e siècle du frère Charles Spurgeon. Je vous l'ai lu tel quel. C'était un message donné un soir. C'est pour ça qu'il a terminé son message par cette prière. Que ces mots ne touchent pas nos émotions, mais que ce message dépasse les capacités, nos capacités sensorielles pour s'adresser à notre être intérieur. C'est un message de prière pour un véritable réveil, un réveil des cœurs, un réveil de l'Église tel que le Seigneur veut la voir. Que ces paroles soient un encouragement pour nous, pour chacun de nous. Je vous encourage, chers frères et sœurs, de rechercher ces témoignages, ces messages de frères et sœurs qui ont vécu dans la fournaise, mais que le Seigneur a œuvré à travers eux. Vous pouvez les trouver facilement en allant sur le web. Mais si vous le souhaitez, je peux aussi vous les fournir. Ce message du frère Charles Spurgeon sera mis aussi sous forme d'article sur le site de l'Église. Vous pouvez le lire comme vous pouvez l'écouter. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et qu'il nous fasse avancer ensemble dans la communion fraternelle. Et en ton nom, chers frères et sœurs, je prie pour nos frères et sœurs de l'Église qui souffrent à cause de la maladie ou autre. Dans la communion fraternelle, nous remettons cette situation devant le Seigneur et nous prions d'accorder à nos frères et sœurs sa grâce et sa main de guérison, si c'est dans sa volonté. Que toute chose ait un sens et qu'il parle au cœur. Et nous savons qu'il est souverain. Il prend contrôle de toute chose. Rien ne lui échappe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.